Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Vient de commencer au Palais de Tokyo une exposition qui ne ressemble à aucune autre. Une exposition dans laquelle les commissaires sont allés chercher des artistes d'un monde que nous connaissons mal et des artistes en dehors, en tout cas, nous semble-t-il, du monde de l'art. Une architecture très particulière, des rythmes très étranges. Les artistes de Mexico, de Dhaka, de Téhéran, de Manille et de Lagos se sont emparés de la totalité de cet espace pour nous montrer ce que nous ne savions pas qui existait.
Ce que l'exposition n'est pas. Elle ne traite pas des mégapoles, elle ne traite pas de la mondialisation, elle ne traite pas de la modernité non occidentale, elle ne traite pas de la minorité, elle ne traite pas de la belle universalité de la création, elle n'a pas de genre, pas de frontières, elle ne s'approprie rien.
Et vous comprenez en écoutant ce propos liminaire des commissaires qu'on est dans un monde tout à fait différent de ce que sont les expositions habituelles. Pour en parler, je reçois Maham Ali Shafai. Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien.
Vous êtes un artiste de Téhéran.
Oui,
et vous êtes un des personnages de l'exposition.
Exactement.
Avec votre père, Reza.
Il y a mon père Reza qui a commencé à faire les dessins à l'âge de 72 ans dans un projet artistique que j'ai commencé avec lui.
En fait, votre père a commencé à travailler à 72 ans. Vous êtes un artiste qui est un peu reconnu dans la scène de Téhéran parce que vous n'êtes pas si nombreux comme artistes là-bas.
La scène artistique de Téhéran, comparée à la population de ville, c'est assez petit. Et ce que j'aime bien là-bas, c'est quand même vraiment il y a une relation familiale et une communauté assez proche. Et que les artistes se fréquentent souvent ensemble. Et que l'histoire de mon père, c'était j'avais un projet qui s'appelait Daddy Spare, ce qui on voit dans l'exposition. Mon père, il a jamais fait la peinture ni dessin. Je lui demandais faire le dessin pour voir s'il y a une ligne génétique qu'on peut suivre dans ma comportement. Et c'était une question d'identité pour savoir si il y a le ressemblant entre moi et mon père. La façon qu'on dessine et que c'est comme ça qu'il a commencé et qu'il est devenu un peintre maintenant.
Donc vous êtes votre père et vous avez été trouvés en tout cas, vous avez rencontré ces deux commissaires, Hugo Vitrani et Fabien Danesi, qui sont aussi là pour parler avec moi de cette exposition. Et vous faites partie au fond d'un univers qui est celui que l'art contemporain à Paris en tout cas ne montre jamais, n'est-ce pas Fabien Danesi?
Oui, c'était effectivement un des enjeux du Palais de Tokyo que d'aller faire une véritable prospection donc dans des villes alors qu'on connaît plus ou moins parce que les contextes sont quand même très différents. Mexico, c'est quand même une ville voilà qu'on a l'habitude de regarder. Pour ce qui est de Manille, il faut savoir que le Palais de Tokyo avait déjà fait deux prospections, deux voyages, donc c'est un dialogue que l'on développe. Et puis c'est vrai qu'il y avait peut-être des villes un peu plus étranges ou en tout cas qui nous semblaient importantes de découvrir, non pas parce qu'elles sont à la périphérie, ça je crois que c'est très intéressant de le dire, c'est que en fait c'est plutôt Paris qui est périphérique et par exemple Lagos c'est effectivement le New York de l'Afrique on va dire et puis à Dhaka ou Manille il faut ou Mexico et Téhéran donc une énergie en fait qui se retrouve dans ces cinq villes qui est très différente et qui permet de comprendre que effectivement la création bouillonnante elle se retrouve partout.
Alors oui, moi je suis absolument pas d'accord avec vous, évidemment. Et donc Hugo Vitrani, je vais vous demander de vous mettre en désaccord avec votre partenaire. Est-ce que c'est vrai que Paris est à la périphérie ? Est-ce que c'est vrai que vous avez choisi dans ces villes des choses qui existaient ? Ou est-ce que vous êtes allé vous-même à la périphérie de ce qui est connu ?
Alors on est vraiment retourné à l'idée de ce que c'est la prospection et que tous les curateurs devraient faire aujourd'hui, c'est aller chercher ce qu'on connaît pas ou ce qu'on connaît mal et ce qui échappe à tout système et tout milieu. Et c'est vrai que on avait une lassitude avec Fabien et le regard du Palais de Tokyo de voir tout le temps de l'art un peu objet, ou de l'art qui répond à des codes marchands ou des codes institutionnels. Et ce qu'on a pu redécouvrir grâce à ces voyages, c'est des nouvelles formes et surtout des nouvelles attitudes, des nouvelles libertés, puisque plutôt que de parler de scènes alternatives, on pourrait parler de scènes indépendantes, puisque certains artistes exposent, certains artistes fricotent parfois avec le marché, même si c'est une part infime du projet. Mais en tout cas, ce sont tous des artistes indépendants.
Est-ce que vous êtes surpris du résultat ?
Le résultat ressemble à rien de ce qu'on voit aujourd'hui. Déjà, nous, on a découvert énormément d'artistes qu'on ne connaissait pas, énormément de langages, d'idées et de préoccupations qui parfois se retrouvent et se recoupent. Et effectivement, on a choisi de travailler avec un architecte pour mettre en place ces énergies.
Comment il s'appelle ?
Olivier Goethals.
Absolument sensationnel. Enfin, il traverse les murs, il fait des ouvertures, il a une certaine brutalité, mais avec une subtilité dans l'usage du bois, des veines du bois, des inversions très très amusantes. Mais c'est une attaque de l'espace.
C'est une attaque de l'espace, mais en même temps, ça permet de le révéler, de l'amplifier, et ça nous a permis de créer un parcours qui n'est pas du tout chaotique, mais qui est long, qui est parsemé d'embûches, où on passe de grandes salles dédiées à certains artistes, ou d'un coup des longs passages un peu plus inquiétants, un peu plus mystérieux, comme des guet-apens. Et ça permet une traversée des imaginaires, les imaginaires des 50 artistes qu'on a réunis dans le projet.
Alors, Hélène Losseur, qui est avec nous, va nous lire un extrait du catalogue, une introduction que vous avez fait dans le catalogue, qui est lui aussi à une forme très très particulière. C'est des petits textes, un petit peu dans l'esprit Beat Generation, je pense. Texte de Hugo Vitrani et Fabien Danesi pour le magazine du Palais de Tokyo, dans lequel vous expliquez votre mode opératoire dans chaque ville.
Dans chaque ville, le même mode opératoire. Visite d'atelier, lorsqu'atelier il y a. Exploration de la ville, seul ou bien accompagné. Maraude, des musées au terrain vague, en passant par les centres historiques et financiers, les bidonvilles, les non-lieux, les hyper-lieux, les bars, les backrooms, les toits d'immeubles désaffectés, les rues et les impasses. Des apéros qui fracassent le cerveau avec Showboy, le baryton qui a fait les 400 coups avec Fela Kuti, au thé pigmenté de Parvaneh et Tamadi, peintre historique de Téhéran, en passant par une rencontre avec Shahidou Lalam, photographe tout juste sorti des prisons de Dhaka, et des virées nocturnes endiablées dans le mezcal de Mexico, jusqu'à la rencontre de coqs de combat élevés par le peintre Robert Langeneger à Manille. Autant de paroles, visions, conseils et découvertes qui nous ont permis de comprendre qu'on ne comprendra pas tout et que le reste est heureusement insaisissable. Le mystère de l'art, comme celui des villes, doit rester opaque.
Merci Hélène. Mamali Chafaï, est-ce que vous avez donc été jusqu'à ces jours-ci dans le montage de l'exposition comme artiste invité avec votre père? Est-ce que vous trouvez que cette exposition ressemble à d'autres expositions, ou est-ce qu'ils sont parvenus à trouver une originalité?
Bon, je peux parler plus pour le choix des artistes iraniens. Je trouve que c'est vraiment, il y a un choix hyper inhabituel des expositions, les artistes iraniens qu'on voit, parce que assez souvent les expositions qui ramènent les artistes iraniens à l'étranger, c'est autour des problèmes géopolitiques ou les problèmes sociaux qu'on a. Et moi, ce que j'aime vraiment personnellement, le choix de curateur dans cette exposition, c'est que ils ont fait le studio visite une façon, si des artistes pourraient habiter à Paris ou à New York ou à Berlin, en fait, il y a vraiment une sorte une globalisation dans un vrai sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas un regard local ou un regard supérieur sur un pays, si je parle de Téhéran, sur une ville. Que ça se passe beaucoup de choses au niveau d'artistique et culturel, mais que c'est assez difficile à comprendre. Mais j'ai l'impression que les curateurs, avec leurs recherches qu'ils ont fait, ils ont quand même réussi de se réunir enfin, on a une idée de ce qui se passe avec une dizaine d'artistes à Téhéran, les voix différentes, les visions différentes. Mais dans le même temps, c'est complètement différent ce qu'on a habituellement voir de l'art iranien.
Alors, Fabien Danesi, est-ce que c'est par lassitude de ce que l'art contemporain occidental nous montre que vous avez entrepris auprès de Hugo Vitrani ce voyage? Est-ce que vous cherchiez à nous étonner, ou est-ce que vous pensez que la réalité de la création est ailleurs que ce que l'on voit ici en France d'habitude?
Ben, c'est très certainement le goût de l'expérience, parce que c'est sûr que ces voyages, ils nous permettent aussi de nous rappeler que la création artistique, elle est étonnamment connectée à la vie. Et c'est vrai que là, dans le petit extrait que on a lu, on entend bien justement que il ne s'agissait pas uniquement d'aller dans les ateliers, mais bien d'essayer de vivre la ville avec les artistes. On a fait par exemple beaucoup de réunions, de rencontres qui avaient lieu en dehors finalement du lieu de création, pour essayer de comprendre aussi comment fonctionnaient ces villes. Donc c'est vrai que l'expérience, elle était un des éléments fondamentaux de notre voyage.
Alors, on le sent quand, dans la façon dont vous écrivez l'un et l'autre dans le catalogue, puisque Mamali est là, écoutons ce que vous écrivez quand il faut traverser Téhéran. On vous écoute.
Traverser Téhéran en taxi-moto permet de défier l'attente. On ne compte plus les conducteurs de bolides sans casque, parfois un bras déjà cassé. À cheval sur les bécanes, on prend en plein visage la pollution et la légère chute de température quand surgissent les montagnes. Sens interdit, cramage de feu, dépasser l'autre, le forcer à freiner ou se percuter. Une conduite nerveuse qui révèle une attitude plus générale. Parole d'un conducteur, ici, chacun cherche à repousser les limites.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et on est en train de parler de l'exposition Prince et Princesse des Villes qui a lieu en ce moment au Palais de Tokyo. Une exposition qui ne ressemble à aucune autre et dans lesquelles les 5 mégalopoles du futur, ou 5 d'entre elles en tout cas, sont explorées par 2 commissaires qui ont fait, au fond, qui ont trouvé une autre méthode pour explorer le réel. C'est comme ça. Est-ce que ce texte que vous racontez là est fidèle à votre expérience, Hugo?
On l'a même légèrement censuré, puisqu'on pouvait pas tout raconter. On avait fait des rencontres beaucoup plus intéressantes ou beaucoup plus borderline. Mais c'est vrai qu'on a fait toute une prospection à travers les artistes. Les artistes sont les premiers à faire de la prospection dans leur ville, à connaître ce qui s'y passe. Mais les artistes au sens large, donc d'artistes plasticiens qui peuvent sortir d'école, là, des artistes reconnus, mais aussi en passant par des musiciens, des personnalités du théâtre, des tatoueurs, des graffeurs, toute création qui pouvait être marginale ou en tout cas pas professionnalisée. Et donc c'est à travers ces personnages-là, à travers ces médiums qu'on a pu parcourir la ville, sans jamais tenter de la cerner, mais au contraire, tenter de s'y perdre.
Donc on peut encore être surpris en recherchant de l'art. Au fond, on peut sortir des formes que l'on connaissait, on peut sortir... Évidemment, il y a toujours des nouveaux artistes, mais là, est-ce que c'est des artistes que vous avez trouvés, ou est-ce que c'est des créateurs, ou est-ce que c'est des presque artistes, ou est-ce que c'est des grands artistes?
Alors on pourrait dire que ce sont des grands artistes, mais on pourrait surtout dire que ce sont des chamans, ce sont des médiums, ce sont parfois des photographes, des peintres, ce sont juste des personnes qui ont des préoccupations, qui ont des rêves et qui s'en donnent les moyens, qui se limitent pas dans leurs rêves et dans leurs préoccupations à les enfermer dans des formes marchandes.
Alors il y a un artiste, un Mexicain, qui avec lequel j'ai parlé, que je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait un grand renard articulé au début de l'exposition.
Donc c'est un artiste qui s'appelle Fernando Palma Rodriguez, qui est un des grands artistes de Mexico et qui est reconnu sur le tard par le monde occidental, puisqu'il vient à peine d'être exposé par le MoMA PS1.
Il a une cinquantaine d'années.
Il a une cinquantaine d'années, même un peu plus. C'est un ancien ingénieur qui a fait la Rex Academy.
Il a une étude de chaman un petit peu. Hein.
C'est un chaman, il s'intéresse beaucoup à la cosmogonie préhispanique, à la figure du coyote. Il a monté une ONG pour protéger son village, pour protéger la culture des Indiens, puisque c'est un artiste indien, pour protéger le langage.
Très, très typé, magnifique. Ouais.
Et donc c'est vraiment un artiste spirituel qui voit l'art comme un combat politique, un combat écologique, Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est que le MoMA Pièce One vient de l'inviter, le Palais de Tokyo présente des œuvres d'envergure de son travail, on le réinvite à la Biennale de Lyon juste après, mais il a été exposé il y a plus de 13 ans à Dakar.
Alors il m'a dit quelque chose, et j'aimerais vous faire réagir là-dessus, Mahali, en parlant avec lui, il me dit, mais au fond on attendait ça de la France, c'est-à-dire un regard sur les artistes internationaux et qu'il soit un regard décalé. Et au fond, disait-il, la scène française qui a inventé à un moment donné ou qui a participé à l'invention d'une des modernités occidentales au début du XXe siècle avait créé cela avec un artiste catalan, un artiste espagnol, un artiste roumain, avec Brancusi, avec Dali, avec Picasso, etc. Et au fond, on a la sensation que c'est encore possible de d'avoir une attitude politique qui, pour une institution qui réinvente ou qui montre qu'il y a un autre art possible. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de semblable en voyant l'exposition?
Oui, sûrement, parce que ce qui me frappe vraiment dans cette exposition, c'est qu'évidemment, on a le caractère de chaque ville, mais dans le même temps, c'est difficile à deviner certains artistes où ils viennent, et que c'est vraiment ce que vraiment je trouve super intéressant dans cette exposition, c'est justement c'est essayer, bon après c'est juste une exposition, mais essayer vraiment aller plus loin que les entités de juste une ville. Ça raconte vraiment ce qui se passe dans le monde entier et qu'on a des dynamiques parallèles et les potentiels parallèles que en fait en Moyen-Orient comme en Iran ou en Asie ou en Afrique. Et ça, c'est hyper frappant de voir une cinquantaine d'artistes qui peut avoir un langage similaire. Et ça peut être, oui, c'est les gens qui habitent en fait dans une petite monde en fait.
C'est un petit peu ça qui habite le Palais de Tokyo, et j'aimerais bien que vous nous reparliez tout à l'heure, Hugo et Fabien, des œuvres et que vous nous les décriviez un peu. Mais dans le texte, dans le formidable magazine que vous avez fait, il y a un petit texte qui dit un peu ce que vous voudrez être, Princesse des Villes. Écoutons, Hélène, à vous.
Qu'on les adore, qu'on les jalouse, les princesses des villes s'emparent du Palais de Tokyo pour le métamorphoser en sulfureux royaume de création. Autant d'artistes, ambitieux, ambitieuses, parfois vicieux, vicieuses, qui, selon les paroles des chansons de Michel Berger et du groupe 113, dont nous remixons les titres en écriture inclusive, veulent briller comme une étoile filante, vivre plus vite que les autres, doués d'un étrange pouvoir qui s'est glissé dans leur regard, avoir un pied dans le futur et obéir à leur nature, puisque rien ne dure vraiment, et que les rêves sont faciles, et l'avenir fragile.
Comment est-ce que vous aviez envisagé chacune des villes, Fabien Danesi et Hugo Vitrani? Par exemple, quand vous êtes allé à Dakar, vous avez été surpris de ce que vous voyez? Vous connaissiez le territoire, c'est une première fois, comment ça marche?
Dakar, non, on ne connaissait pas. Alors, il y avait quand même cet événement qui existe depuis le 2012, qui est le Dakar Art Summit, qui est une sorte de biennale, qui a donc quand même mis l'accent sur la scène locale. Mais c'est vrai qu'il était intéressant, en fait, de s'y rendre en dehors de ce grand événement international pour pouvoir voir quelle était l'activité de la création au quotidien.
Alors, comment vous débrouillez? Vous arrivez à Dakar, vous dites, c'est moi, est-ce que...
Il y a un petit travail systématique, on va dire. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec Internet, voilà, il y a la possibilité déjà de se renseigner, d'avoir un certain nombre d'informations, mais disons que en fait, on se laissait quand même libre, bien sûr, de encore une fois dériver. C'est-à-dire que généralement, quand on passait 15 jours sur place, on avait les 4 premiers jours qui étaient convenus, c'est-à-dire qu'on avait les rendez-vous, et puis on savait très bien que de rencontre en rencontre, on allait pouvoir progressivement comprendre un peu mieux, ou comme le disait Hugo, ne pas comprendre ce qu'est la ville. Par exemple, à Dakar, c'est à la faveur d'une rencontre avec Ritu Sattar que nous avons découvert un jeune artiste run space qui est plutôt orienté sur les questions LGBT. Alors malheureusement, on n'a pas pu les intégrer par exemple dans l'exposition pour des raisons qui tiennent au fait que cela aurait pu avoir créer des difficultés pour eux, mais voilà, on a découvert ce jeune groupe qui existait depuis un mois. Donc c'est vrai que encore une fois les artistes ont été de véritables intercesseurs, ils ont été comme ça les médias, les moyens d'aller en profondeur et de comprendre, de dériver dans la ville.
Alors la première ville qui a été visitée par votre équipée, si je puis dire, c'est Lagos. Comment ça s'est passé, Lagos ? Un premier contact avec Lagos, c'est quelque chose quand même, c'est un autre monde.
Alors le premier contact était très étrange très officialisé dans l'arrivée, donc l'ambassade qui nous accueille, des militaires, gardes du corps indépendants.
Ça ne doit pas faciliter la relation avec les artistes.
Nocturne étrange, donc ça c'est juste le passage de l'aéroport à l'hôtel, et d'un coup la liberté en arrivant à l'hôtel, on peut dire son nom, Bogobiri, qui est un lieu vraiment où tous les artistes se retrouvent avec des sessions d'open mic tous les jeudis, donc des concerts où tout le monde peut chanter, danser. Et un petit bar assez petit avec les anciens musiciens de Fela Kuti qui jouent de la musique. Et d'un coup, tout se déclenche. D'un coup, tous les contacts se font en buvant de la bière, en mangeant du poulet épicé et en sortant dehors la nuit quand l'ambassade le déconseille.
Alors, faut le faire. Quand c'est déconseillé, faut le faire.
C'est la règle.
Et donc, vous avez tout de suite trouvé, parce que c'est se déplacer dans Lagos, traverser la ville de Lagos, c'est quasiment une journée, quoi. C'est tout est long. Si vous avez deux ateliers à voir à deux bouts de la ville, comment on fait ?
Alors, le trafic de Lagos est l'un des pires du monde. Le Lagosien normal passe à peu près 5 heures par jour dans une voiture. Donc forcément, les rendez-vous se font en général à la louche. Donc un rendez-vous le matin, un rendez-vous l'après-midi, et on fixe pas d'heure. Et puis celui qui arrive le premier commande la première bière ou la première bouteille d'eau. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il faut pas se louper sur les rendez-vous. Il suffit que quelqu'un ne vienne pas pour que la journée soit flinguée, ou il suffit qu'on ait rencontré le mauvais artiste pour que la journée soit aussi flinguée. Donc après, on passe par d'autres modes opératoires, on prend des motos sans casque, et puis on bombarde sur des routes un peu périlleuses, et puis comme ça on double le trafic et on sent un peu plus l'énergie.
Mais ça veut dire que quand vous avez été à Lagos, vous n'avez pas pu trouver 3-4 artistes parce que ça demandait beaucoup de temps, donc il a fallu y retourner, vous avez fait ça plusieurs fois.
Donc Lagos, il y a eu un premier voyage de 15 jours et un second voyage de 15 jours, donc au final presque un mois passé dans la ville pour rencontrer plus de 70 artistes.
Et combien y a-t-il d'artistes de Lagos dans l'exposition ?
Et de Lagos, il doit y avoir plus d'une dizaine d'artistes.
Donc ça, c'est...
Donc on a trouvé beaucoup d'artistes.
Il y a une réalité de créative comme ça, ouais. qui est forte.
Oui, Lagos est en pleine ébullition dans la musique. On le voit avec le succès de l'afropop. Déjà, il y a eu l'héritage de Fela Kuti, mais qui s'est transformé aujourd'hui dans une version plus mainstream avec des artistes comme Wizkid qu'on entend, qui sont devenus des très grandes stars en Occident. Il y a aussi effectivement des scènes alternatives. L'artiste Falz, par exemple, qu'on expose au Palais de Tokyo, qui est cet artiste qui a fait un clip qui s'appelle This is Nigeria, qui est un portrait au vitriol de son pays, sur fond de terrorisme de Boko Haram, de corruption pétrolière, de capitalisme, de business en tout genre et de système D. Il y a le cinéma qui explose aussi avec l'industrie de Nollywood. Donc on a cette artiste qui s'appelle Emma Edosio, réalisatrice, qu'on a invitée dans notre salle de cinéma puisque nous avons créé une salle de cinéma au Palais de Tokyo avec un film par ville. Et puis il y a effectivement toute une scène d'artistes qui créent des artistes run space indépendants, des expositions indépendantes. Donc effectivement, on a une ébullition qui vient de Lagos.
Est-ce qu'il y a, Mamadi, vous qui êtes donc de Téhéran, je le rappelle, vous avez eu des surprises visuelles ? Il y a quelque chose qui vous a marqué dans ce que vous avez aperçu ?
Moi, je fais partie de cette expo, mais je pense que la découverte, c'est énorme. Enfin, on a vraiment plusieurs regards, comme je dis tout à l'heure, et que ça peut nous donner un bref résultat de ce qui se passe dans chaque ville. Et ça, je pense que c'est très rare d'avoir, comme je dis, d'avoir un regard inhabituel d'un curateur qui vient d'un... moi, si je peux dire, pour moi, c'est Paris, c'est une des centres de l'art contemporain du monde, qui vient dans ce ville et il essaye de comprendre et trouver des points en commun qui se ressemblent avec ce qui se passe ici, pour mettre en point l'esthétique et tout ce qui se passe dans ce ville-là dans le même paquet. Et ça, c'est pour moi, c'est le point le plus important de cette exposition.
Alors il y a des artistes que j'ai croisés, en particulier un petit groupe d'artistes qui étaient en train de faire des costumes de mode comme une sorte de premier défilé qui se préparait, qui est en train de travailler sur place dans le palais. Extraordinaire, qu'est-ce que c'est que ces artistes? Et alors ils me disaient, mais on ne s'attendait pas du tout à être invité où que ce soit, on n'en revient pas d'être dans un centre d'art aussi connu. Quand on a vu la Tour Eiffel, on s'est mis à pleurer tous ensemble, etc. Qu'est-ce que c'est, qui est-ce?
Il s'agit de Amou, en fait. Ce sont deux jeunes fashion designers de Manille qui sortent véritablement de l'école. Ils ont fait une unique collection et le Palais de Tokyo leur donne la possibilité de créer leur seconde collection. En fait, je les ai rencontrés à Manille par l'intermédiaire d'une artiste qui n'est pas dans l'exposition, qui s'appelle Yeoka. Quand j'ai discuté avec elle, je lui ai demandé justement qui elle regardait, qui lui semblait avoir la fraîcheur et l'énergie caractéristique de la ville. Et elle m'a orienté donc vers ces deux jeunes fashion designers.
C'est toujours les artistes qui sont les meilleurs indicateurs pour connaître d'autres artistes.
Oui, véritablement. Hein, effectivement, ils ont de véritables antennes. Ils regardent avec une extrême précision parce que souvent, c'est ce qui nourrit eux-mêmes leur travail. D'ailleurs, on peut aussi noter que des fois, les connexions se font de ville à ville. Par exemple, on a aussi de Manille, Maria Géona Zoleta, qui connaissait le travail du père de Mamali, Reza. Et d'ailleurs, dans l'exposition, par petit clin d'œil, on l'a mise juste à côté et elle était ravie de pouvoir découvrir un artiste qu'elle a rencontré par le biais des réseaux sociaux il y a de cela quelques années.
Vous pouvez me décrire un petit peu ces grands costumes
Alors, c'est une esthétique du patchwork, c'est une esthétique de l'accumulation. Et en fait, les Hamou ont décidé de jouer en fait sur les disparités sociales très fortes aux Philippines en jouant ou en travaillant à partir de matériaux pauvres, mais en leur donnant comme ça une sorte de noblesse. On est véritablement face à des robes de soirée, des costumes qui ont véritablement une apparence clownesque.
Alors c'est une des caractéristiques un petit peu de l'exposition. Il y a beaucoup de système D dans la façon d'obtenir les matériaux pour tous les artistes, quels que soient ces pays. Au fond, on a l'impression que c'est dans ce que cette ville, ça me fait penser à une phrase de je crois que c'est Marinetti, je suis un sucre dans ta bouche gourmande, voilà. Et donc en parlant des villes, n'est-ce pas? Et donc on a l'impression que ces villes rejettent des matériaux et que les artistes les recyclent immédiatement. Et dans votre catalogue, il y a un petit texte sur dans les marges du système D. Hélène, est-ce que vous voulez bien?
Dans les marges, le système D est alors une façon de démembrer le circuit habituel des matières premières aux déchets. Toile d'araignée électrique, fil dénudé, le système disjoncte. Le court-circuit est attendu. Leroy New empile les objets issus des magasins de surplus ou de marchés locaux afin de créer une colonie psychédélique, faite de briques et de brocs, prête à accueillir les extraterrestres les plus déglingués. Il s'agit de dribbler avec le monde comme un ballon rond, contrôle de la poitrine. Le plastique n'est pas jeté, mais recyclé. Tri tendu dans la lucarne, l'objet pauvre devient installation luxuriante. Il prolifère, car le processus créatif aspire à la contamination. Ça court les stades, les rues, les murs, les toiles. C'est une fièvre, une véritable contagion. Le tracé de Pao Martinez zigzague et lézarde. Les figurines d'Amir Kaman s'enchassent et déboîtent. Les personnages de Dr Karayom apparaissent sur le mode de la profusion. Bref, la mesure comme ordre rationnel des choses tombe.
Et nous sommes sur France Culture et nous parlons de ces villes de la démesure, ces villes qui font le sujet de l'exposition du Palais de Tokyo, Prince et Princesse des Villes. Hugo Vitrani, la mesure comme ordre rationnel des choses tombe, c'est véritablement ce dont on a la sensation, c'est-à-dire que c'est rare qu'on ait l'occasion en Occident de voir des œuvres dans lesquelles il n'y a pas un schéma directeur issu de notre histoire. En général, la contamination depuis le XVIIe siècle du modèle équilibré de l'art européen maîtrise en quelque sorte les débordements des œuvres. Et là, pas du tout, ça déborde de partout.
C'était effectivement l'idée. On n'est pas du tout venu avec nos œillères de deux curateurs blancs, occidentaux, hétérosexuels. On est venu avec l'envie de penser contre nous-mêmes, ou en tout cas de penser autrement, et de penser avec les artistes et grâce à eux. Et donc c'est comme ça qu'on a cherché des énergies d'artistes émergents, qu'ils soient jeunes ou vieux, des énergies d'artistes qui pouvaient nous amener dans d'autres territoires inconnus pour nous, leur territoire. Et donc c'est comme ça qu'on a pu découvrir beaucoup d'artistes et beaucoup de sujets qui ne faisaient pas partie, par exemple, de nos sujets de recherche avec Fabien, mais qui sont devenus des évidences pour nous et qui ont construit l'exposition. Puisqu'on a construit l'exposition avec les artistes, Et chaque découverte créer un nouveau chapitre dans l'exposition ou une nouvelle manière de la conceptualiser ou de justement ne pas la conceptualiser.
Parce que dans ce texte sur le système D, on voit bien qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Il n'est pas question d'aller chercher simplement des tubes de peinture et autres. On récupère bien entendu. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que tout cela, c'est pour faire un art qui parle du réel. Hein. C'est-à-dire, j'étais très frappé de voir à quel point on n'est pas dans le symbolique. La sexualité est montrée très franchement, l'engagement politique est montré très directement, la biographie ou l'autobiographie est exprimée. Celui-là a été en prison, celui-là a été boxeur, celui-là, etc. Mamali Reza, votre père, c'est très très vigoureux et audacieux. C'est dur érotiquement, sexuellement le travail qu'il fait. Vous l'encadrez, vous l'organisez, vous lui donnez une sorte de mesure avec votre travail, mais c'est une sorte de rapport entre un monde d'équilibre et un monde d'audace, en fait.
Oui, bah en fait, ce qui était vraiment magique dans l'histoire de mon père, c'était que pour moi, mon père, c'était quelqu'un... Parce qu'il était un sportif, du coup, il avait aucun... Bon, c'était quelqu'un qui lisait pas mal des bouquins, mais il avait aucun rapport avec l'art visuel, et que c'était... Pour moi, c'était quelqu'un qui était assez pudique. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui nous disait, il faut s'habiller comme ça, ou assez traditionnel. Mais ce qui est vraiment magique et intéressant, c'est la question comment l'art peut ouvrir, enlever les barrières, et que, le résultat, c'est que mon père, je pense que, il a fait un peu les dessins un peu érotiques au début parce que ça ramenait plus attention, et c'est comme à son âge, c'était un peu comme un enfant qu'il avait besoin de plus d'attention parce qu'il se croyait pas un artiste, c'était juste, il essayait, mais c'est, oui, cet changement de cerveau et le changement de même maintenant son comportement, parce que maintenant il a compris comment c'est un grand peintre et qu'il peut vraiment être partout dans le monde et voyager. Maintenant, il est là, à Paris, et que tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment...
Il est content d'être à Paris?
Oui. Non, mais c'est... Il est venu avant Révolution plusieurs fois, mais depuis, il n'a jamais voyagé. Du coup,
et ouais. Ça lui paraît étrange, difficile au début de montrer ses œuvres qui sont des scènes sexuelles presque à chaque fois. Et même dans sa relation avec son fils, ça peut être délicat.
En fait, ce qu'il a bien observé, ce que j'ai vécu, parce que ma sœur, elle est photographe aussi. Je pense qu'avec un peu de distance, j'ai compris une fois que j'ai vu ce dessin plus tard. Mais ce qui était drôle, c'est que parce que dans mon travail aussi, je fais pas mal de recherches sur la perversité domestique. Ce qui, on est dans toutes les cultures différentes, mais dans mon pays, c'est quand même assez extrême. Parce qu'il y a un contraste entre tradition et la modernité, et ce que les gens, il faut montrer et qu'ils peuvent pas montrer, la question de censure. Et que je pense que ce qui était vraiment intéressant avec le travail de mon père, c'est qu'il observait ce qui était interdit, comme tous les Iraniens, il a réussi finalement à sa façon de sortir quelque chose et jouer avec la question de censure.
Alors, Hugo et Fabien, donc, pour découvrir ce que sont ces villes, il y a la nuit. Et apparemment, une grande partie de ce que vous avez fait, le travail de curateur que vous avez fait, c'est dans les nuits que de ces grandes villes gourmandes que vous l'avez découvert. Hélène, est-ce que vous voulez bien lire le texte qu'ils ont écrit l'un et l'autre sur, ça s'appelle Les Nuits Vinyles, c'est dans le catalogue également.
La nuit, le pouls du monde frappe plus vite. Et le désir se fait vinyle ou cuir, comme dans une garrapata partie à Manille. Dans cette même ville, John G.V. del Rosario se défoule avec un karaoké échevelé où le n'importe quoi est l'expression la plus pure de sa liberté. Urban Decay Planning est le nom de son collectif avec Main Magno. Depuis 2016, la guerre faite à la drogue par le président Duterte criminalise la vie nocturne. Et à Mexico, les sculptures féminines de Chelsea Culprit imposent leur présence exagérée. Ces Miss Universe sont des figures plus grandes que nature, dont le grotesque attire et met à distance. Dans les soirées Trahison, la création se déforme sous acide jusqu'à l'arc-en-ciel où le drapeau flotte. De manière inédite, les soirées H-Factor réunissent à Lagos une jeunesse privilégiée et celle du mainland. Une jeunesse qui danse avec les plus anciens, les plus anciennes, lors des nuits blanches du shrine, le temple de Fela Kuti. L'insolence et l'humour teintent les tableaux de Oda Kashia, qui revisite la peinture moderniste façon cartoons et émoticônes insolents, toujours vaporeux. À Téhéran, la nuit, tout se confond. Et l'alcool fait maison dans ces bidons en plastique, permet de lâcher prise dans l'espace privé, toujours plus libre que l'espace public. En contrepoint, les chanteuses filmées par Nouisha Tavakolian, devant un rideau de cabaret pailleté, laissent entendre le silence des restrictions faites aux femmes depuis la révolution de 1979. La nuit, on pourchasse ces démons, rendus visibles par Tala Madani dans ses peintures et vidéos, et avec eux, le mensonge de la totalité. Alors, l'art s'envoie en l'air au crépuscule, dont Baudelaire disait qu'il était le complice des criminels. L'art, nuit.
Merci, merci Hélène Losseur. Hein, et donc, c'était la nuit que tout ça s'est passé. Dans l'exposition, on sent très fortement cette nuit exister. Au fond, on a l'impression que beaucoup de photographies qui sont là sont prises la nuit, certains films sont pris la nuit. On a l'impression que... Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que c'est juste, au fond, cette remarque de Baudelaire, le complice des criminels? C'est-à-dire, quand on est complice des criminels, on est aussi complice d'artistes. C'est-à-dire que c'est le moment où on avoue ce que l'on est le plus intensément. Et dans l'exposition, on le sent. Cette femme, Chelsea, justement, vous pouvez nous raconter, Hugo Vitrani?
Donc Chelsea Culpride, qui est une artiste américaine qui vit depuis 3 ans à Mexico, c'est une ancienne danseuse et aujourd'hui elle fait de la peinture comme de la sculpture et de la sculpture comme de la peinture, qui s'intéresse toujours aux formes du corps féminin, le corps de femmes stripteaseuses, le corps de prostituées. Donc c'est souvent des moments d'intimité, c'est souvent des femmes qu'elle représente.
C'est des sculptures à la limite du grotesque, assez grandes, un peu plus que taille réelle. Du coup, la monstruosité du corps apparaît. Elles sont ultra fardées, elles sont en train de se regarder dans des vrais miroirs, il y a des jeux de lumière tout autour. Et donc chaque geste montre qu'il y a une intuition de sculpteur extraordinaire, parce qu'il y a une empathie dans chacun des gestes qu'elles font, et en même temps, c'est des scènes existentialistes et tragiques.
Oui, on est vraiment dans les backstage d'un cabaret, d'un strip club, donc on est dans ce moment où les danseuses se relâchent, se préparent, ou prennent un peu de vitamine pour y retourner. Donc c'est un moment à la fois intime qui peut être aussi triste, et qui parle effectivement de cette intimité-là, de personnes que l'artiste a rencontrées et qui sont importantes pour elle, mais c'est aussi des corps qui parlent de notre regard, le regard un peu capitaliste sur le corps. Donc c'est vraiment cette relation-là entre l'intime et le capitaliste qui intéresse cette artiste. Elle a créé une grande fresque en plus, une grande fresque bleue qui reprend la couleur de Barba Azul. Barba Azul, c'est ce fameux strip club de Mexico, qui est un peu l'équivalent de la rue Saint-Denis à Paris, et où l'artiste a exposé. Et c'est le seul endroit, je crois, à Mexico où elle a exposé avec une grande envergure. Et donc, on a voulu faire un écho à ce lieu-là.
Mamali Chafani, il y avait également, donc c'est une artiste que vous connaissez probablement, Nouisha Tavakolian, celle qui fait ses vidéos. Pouvez-nous décrire le travail?
Oui, parce que en Iran, Le voix féminin, c'est censuré. On a plein de chanteuses qui, évidemment, ils chantent en privé, mais publiquement, le gouvernement interdit pour les femmes de chanter. Et du coup, Nusha, qui est une amie, elle a fait toute une série entre documentaires et mise en scène. Elle a invité des chanteuses, justement les gens qui sont semi-professionnels, qui chantent dans les soirées ou dans les concerts privés, parce qu'il y a des concerts qui existent pour que les femmes. Et du coup, elle fait chanter devant sa caméra et pour ses vidéos. Et par contre, elle a coupé le son pour montrer pression qui, ces personnes qui sont, ils prennent ça comme un vrai métier, mais c'est qu'ils ont pas le droit de exprimer ce qu'on fait.
C'est assez beau parce que dans l'exposition, quand on passe de, on entend des sons, parce qu'évidemment l'exposition est très tumultueuse, il y a tous les bruits de la nuit dont on parlait, il y a les films, les chants, etc. Et puis on voit ces vidéos des femmes en train de chanter, et là c'est une des rares zones de silence, hein, il y en a que deux, et on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ces femmes, c'est une très très belle vidéo, donc elle a un ensemble d'écrans comme ça, et ces femmes voilà, sont muettes, bien qu'elles chantent, et c'est exactement ce que vous dites, probablement cette sensation de ne pas pouvoir le dire, n'est-ce pas?
Oui, et aussi ce que j'aime bien dans l'exposition, on a juste à côté le, une mise en scène et avec des drapeaux, une soirée rave party à Mexico qui est complètement extrême. Et montrer les deux œuvres à côté, je pense que c'est un contraste qui montre, en fait, parce que, bon, il y a des choses qui ressemblent à Mexico, à Téhéran, à Manille, enfin, tous les, je pense qu'il y a des points communs dans les cinq villes qui étaient choisies par les curateurs. Et pareil, bah, ce qui me frappe toujours dans mon pays, c'est le contraste que je vis dans le quotidien.
Oui, parce que à Mexico, il y a pas de gêne, hein, donc il y a cette grande scène queer qui est en permanence activée dans l'exposition, il me semble, n'est-ce pas?
Oui, qui est très présente, puisqu'on a invité beaucoup d'artistes qui s'intéressent à cette question. Et à Mexico, la jeune scène artistique sort beaucoup dans ces soirées Traición et d'autres soirées. Et ce sont des soirées qui sont des nuits politiques, puisque au-delà de faire la fête, c'est une manière de faire la fête de manière politique, de défendre les droits de minorités, de défendre toutes ces questions-là de manière militante, tous ensemble. Donc c'est vraiment un aspect assez important de l'exposition et qu'on retrouve dans toutes les villes. Oui.
Donc ça aura lieu toutes les semaines, tous les soirs? Comment ça va marcher?
Donc c'est un artiste qui s'appelle Justin Schulder qui va participer justement au programme de performance du Palais de Tokyo, la manutention, et du coup qui va faire 4 performances pendant l'exposition.
Et donc là on arrive, il y a la grande scène en face de nous, des tas de banderoles qui ont été demandées à beaucoup des artistes de l'exposition d'ailleurs, hein, donc qui sont faites sur le thème queer justement. Et alors pas loin, il y a, peut-être que vous pouvez en dire un mot, Fabien Denesi, il y a un artiste aveugle. C'est assez rare.
Il y a Manuel Solano,
les peintres.
Oui, Manuel Solano, qui est un artiste mexicain qui, en fait, a contracté le sida et, à la suite d'un mauvais traitement, est devenu aveugle. Alors, ses peintures étaient d'une extrême précision, mais il a continué, en fait, à peindre en trouvant les moyens, une nouvelle technique avec des fils et des aiguilles. Il peint généralement sur le mur. Et là, c'est un moment aussi un peu de pause dans l'exposition, puisqu'il vient après Nuecha Tavakolian et on lui a proposé, ou en tout cas, il a demandé une salle complètement blanche, un white cube.
C'est le seul white cube de l'exposition, voilà, parce que le white cube est ce un peu à quoi s'oppose.
En plein milieu de la nuit, il y a en quelque sorte sa nuit, et sa nuit elle est blanche, et ça dit aussi que de notre part il n'y avait aucune volonté de systématisme, et on aimait bien avec Hugo l'idée de la possibilité de se contredire. Tout à l'heure, Mamali parlait des contrastes, et c'est vrai qu'on n'a pas uniquement joué la carte des affinités, on a aussi cherché effectivement parfois à accélérer le rythme, à créer des longueurs d'onde un peu sinueuses, et donc l'enjeu, c'était voilà d'avoir une multiplicité de propositions, et donc au milieu de cette nuit noire, eh bien on a voilà ce cube blanc.
Alors, qu'est-ce que ça ressemble à quoi ces peintures?
Ben, ce sont des peintures généralement qui sont issues de sa mémoire. Ce sont des peintures de figures intimes.
Parce qu'il a un répertoire très limité, du coup,
puisque ben oui,
il n'y a que ce dont
mère,
il se souvient.
Il peint sa mère. Il peut peindre, par exemple, Michael Jackson. Il peint également l'actrice du Cinquième Élément. On retrouve également Keiko, qui est cet orque qui avait joué dans Sauver Willy. Donc effectivement, ce sont des figures souvent pop qu'il se réapproprie, mais avec une finesse et alors dans une palette qui est nécessairement réduite, mais qui touche au cœur.
Alors, il y a, puisque vous parlez de Sauver Willy, il y a aussi des artistes, ils sont mexicains ceux-là, je crois,
oui,
qui travaillent sur
Wax.
Willy. Alors ça, c'est des œuvres, on est un énorme Willy, c'est-à-dire un orque immense, comme ça, découpé en plein cœur de l'exposition. Et tout d'un coup, on voit ça avec des boîtes de Coca-Cola, etc. C'est un collectif politique, qu'est-ce que c'est?
Alors, Bikini Wax, effectivement, on leur a proposé une carte blanche. Ils ont décidé de travailler sur ce personnage de Keiko, donc qui est une orque qui avait été achetée par un parc d'attractions maritimes en 1985. Et pour eux, en fait, Keiko, c'est un peu la métaphore du Mexique depuis les années 90. Et à travers Keiko, en fait, ils parlent notamment des relations commerciales entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, d'où la multiplicité d'objets, effectivement, qui font référence notamment à la culture américaine. Il y a par exemple un écran où on retrouve Michael Douglas dans Wall Street.
C'est une façon de dénoncer l'utilisation capitaliste faite du monde de la nature, est-ce que c'est ça?
Oui, il y avait un peu cette absurdité, bien sûr, autour de ce personnage, parce qu'il faut savoir que Keiko est devenu une telle star qu'il a été remis à l'eau en 2001, mais malheureusement, il avait jamais vécu véritablement en Arctique, donc il est mort un an et demi après, et l'absurdité touche à son comble quand on sait que l'animal, une fois mort, a été en fait inhumé comme un humain. Et donc effectivement, Bikini Wax se sert de cette trajectoire et de cette histoire pour raconter en quelque sorte le Mexique de la corruption, le Mexique des affaires politiques, le Mexique de l'américanisation à partir des années, encore une fois, 90.
Hugo Vitrani, il y a aussi un artiste qui m'a beaucoup frappé. C'est un artiste peintre, cette fois-ci. C'est peint comme avec de la pâte Sanogyl. On a l'impression que c'est du dentifrice rose. C'est des visages assez insistants, très tragiques, très épais. Et c'est des grands tableaux. Qui est-ce? D'où il vient? Racontez-moi sa vie, racontez-moi qui il est.
Donc l'artiste Farouk Madavi est un artiste découvert à Téhéran, qui est un artiste très connu à Téhéran, mais on lui rend pas souvent visite dans son atelier, puisque c'est un artiste assez discret et impressionnant. C'est un ancien boxeur. Il en a gardé la carrure, il en a gardé la gueule.
Vous le connaissez, vous, Mamali?
Oui.
Il est sympa, oui. Il vous casse la gueule dès que vous approchez. Bon, ça va,
oui. Ça va. Bon. Il est très sympa. Il a travaillé aussi dans une morgue et en fait, il est passionné par la peau. Il voit la peinture comme une peau rose qui serait un peu l'envers même de la peau, qui est un peu pétrifiée par une certaine idée morbide et des regards qui nous fixent. Et du coup, je connaissais son travail. J'ai trouvé son atelier, je m'y suis rendu et j'ai découvert que le sol entier était recouvert de ses peintures qu'il s'amuse à jeter au sol et ensuite à piétiner, à marcher dessus, les abîmer, les reprendre, les arracher et continuer ce jeu. D'abord parce qu'il aime bien avoir le dessus sur sa peinture, puis aussi parce qu'il est que locataire et donc il a pas envie d'abîmer son sol. Et du coup, on lui a proposé de déplacer cet atelier, de recréer cette atmosphère pour que la peinture redevienne environnement, redevienne un tapis de peau. Et du coup, on a eu la chance de déplacer toutes les œuvres qui étaient au sol de son atelier pour les mettre au Palais de Tokyo et le public pourra piétiner tous ces visages morbides qui nous regardent.
C'est très impressionnant. C'est vrai que c'est, on a l'impression que c'est peint de derrière la peau. Et bon, il y a un petit côté Bacon, hein, derrière tout ça. Et d'ailleurs, l'atelier doit être un peu à la Bacon, j'imagine. Et alors, il y a un autre artiste que j'ai trouvé très étrange. C'est un artiste qui fait des sculptures en bois, très totémiques, avec des grands singes, des personnages qui font du ski. D'où ça sort, ça?
Amir Kaman, qui est un des grands amis de Reza Chafaï. Donc on est sur une jeune scène.
On est encore à Téhéran, là.
On est encore à Téhéran.
Et c'est que vos copains, c'est que vous le connaissez aussi, Mali, non?
Oui, il a un peu la même histoire similaire que mon père. Donc, il a commencé, Hugo il peut raconter, mais du coup, ils ont la même galerie à Téhéran et qu'ils ont devenu des potes, quoi.
Mais quand vous dites qu'il a la même histoire que votre père, vous voulez dire qu'il a commencé très tard lui aussi?
Ouais, je pense autour de l'âge 50.
Donc il n'y a pas d'âge pour commencer, chers auditeurs, si vous voulez vous lancer, c'est le moment, vous exposerez peut-être au Palais de Tokyo. Racontez-moi l'histoire de ce personnage, c'est quoi? C'est pourquoi des skieurs, pourquoi des singes, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc Amir Kaman, c'est un artiste qui a commencé l'art très tard, à peu près il y a 4 ans. Il avait d'abord eu plusieurs carrières, il avait fait de la boxe. Il était skieur, après il s'était essayé au moulage plastique, un peu au textile, et puis il a tout foutu en l'air pour se mettre à faire de l'art. Et ce qui est intéressant, c'est que à Téhéran, on l'a souvent taxé d'être un artiste outsider. Et il déteste ça, comme Reza Chafaï déteste ça.
Quand on dit outsider, en français, ça veut dire un artiste brut, au fond. On a dit c'est de l'art brut,
exactement.
On n'a pas dit c'est de l'art. Et ça, c'est un malentendu qui est intéressant.
Et qui les énerve beaucoup. Et un jour, je buvais du thé avec Reza et Amir et je leur disais, mais en fait, vous êtes des jeunes vieux artistes émergents. Ils étaient morts de rire. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Ils sont une jeune scène de l'art à Téhéran. Et Amir, du coup, sculpte des petits totems, même si pour l'exposition, il a travailler une échelle un peu plus spectaculaire. Et donc ces totems sont souvent sur des sujets répétitifs qui s'inspirent de sa vie ou de son imaginaire ou de la culture pop. Donc ça va des samouraïs, des films japonais qu'il aime regarder, Ça va vers des ovnis, des formes hybrides, des totems de singes avec des sexes un peu difformes, des bananes dans la bouche. Donc voilà, des séries de nageurs, des séries de boxeurs. Et donc on est sur ces séries qui sont répétées, toujours réinventées. Et qui
avec forment un travail sur le déséquilibre à chaque fois. C'est très composé pour être en porte-à-faux. Enfin, c'est assez savant, mine de rien.
Tout est surnaturel et surréaliste. Et l'assemblage des 100 sculptures qu'il a créées pour le Palais de Tokyo forme un paysage complètement incroyable, féerique, coloré, puisqu'on est aussi sur de la peinture.
Mais quand vous dites mon père ou bien cet artiste a une galerie, ça veut dire que ils sont dans un marché, ça vaut déjà une fortune. Je vous pose la question pour savoir si c'est organisé ou est-ce que c'est des petites galeries où ils passent de l'une à l'autre. Comment ça marche, dites-moi.
Cette galerie, c'est plutôt un artist run space par Shaban Tayari qui est lui-même un artiste. Et qu'il s'intéresse vraiment, se réunit justement les gens comme mon père ou Amir Kaman, ils pourraient pas forcément être exposés dans une vraie galerie à Téhéran. Et que ce qui est intéressant, au début, c'était les gens inconnus. Mais au final, maintenant, c'est vraiment, les prix sont vraiment pas chers en Iran parce que, c'est pas la même marche qu'ici, mais ce qui est drôle, c'est que il y a une liste d'attente pour le travail de mon père et Amir Kaman, même avant d'aller à Tokyo, parce que les gens, finalement, ils trouvent super intéressant d'avoir, comme Hugo, ils disent, en fait, il aime beaucoup leur histoire, il aime beaucoup donner cette possibilité d'enlever cet regard ancien qu'un artiste autodidacte est forcément l'art brut et que ça peut pas aller dans une galerie ou dans une institution.
Mais on peut pas dire que... D'ailleurs, Fabien, avant que je n'oublie, dites-nous ce que c'est qu'un artist run space, parce qu'il se peut que nos auditeurs ne voient pas trop de quoi il s'agit.
C'est un espace qui est en fait autogéré par les artistes.
Donc oui, ça donc leur assure on est pas, c'est pas, la grande galerie commerciale, non, à la Gagosian, c'est vraiment le contraire. Je voudrais juste que vous exprimiez sur quelque chose qui est peut-être une ambiguïté. Art populaire, ou bien grand art, art marginal, ou bien... art académique, on est dans quelle situation? Est-ce que vous avez cherché à dessiner quelque chose de ce point de vue-là, Hugo Vitrani?
Je crois qu'on est dans l'art tout court et qui se joue de toutes ces catégories-là, donc qui est parfois populaire, parfois très grand, parfois très petit, donc encore plus grand que le grand. Et donc on n'a pas cherché à dessiner, justement.
On rentre par un tatoueur quand même.
On rentre par un tatoueur.
Là, on est quand même dans un art populaire, pourtant très savant. C'est qui ce tatoueur
d'ailleurs? Très savant, c'est un artiste qui s'appelle Luciano Calderon, connu sous le nom de Luciano. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un artiste qui vient de Mexico dans l'exposition, mais qui est bolivien et suisse et qui tatoue aujourd'hui à Barcelone, mais qui a marqué la scène de Mexico en ouvrant un salon de tatouage il y a quelques années, pendant plusieurs années. Et il a fermé son salon, il est parti, mais tout le monde parle encore de lui là-bas. Et ça montre aussi ce qu'est l'exposition, c'est que c'est une exposition assez libre de ses frontières, puisqu'on a invité la diaspora, les expatriés, puis ceux qui sont juste passés par là, mais qui ont marqué les scènes.
Alors dans les Mexicains, il y a juste à côté, d'ailleurs, parce que là, ce qu'il montre, c'est pas des tatouages, en fait, hein, c'est un tatoueur, mais il a fait une peinture murale qui fait 6 mètres de haut. Et à côté, il y a d'autres muralistes mexicains. Et alors là, c'est assez marrant, parce que c'est la forme est entre le muralisme politique d'autrefois et du suprématisme presque.
Donc effectivement, on termine l'exposition avec la découverte d'une fresque de Tercero Quinto. Et Tercero Quinto, c'est un collectif qui travaille à Mexico, qui s'intéresse beaucoup à la peinture politique et qui a commencé il y a 10 ans une réflexion sur les sign painting, donc les peintures de rue commandées à des artisans, souvent pour de la publicité ou des campagnes politiques. Et du coup, il y a 10 ans, ils ont voulu faire une restauration d'une de ces fresques politiques pour faire un parallèle entre le muralisme à la Diego Rivera et la propagande politique actuelle. Et depuis ce projet-là, ils ont photographié pendant 10 ans tous les sign paintings de toutes les campagnes politiques à Mexico, avec l'idée de les rejouer, de les superposer, pour finalement les défigurer et agresser finalement leur aspect iconique.
Et il y a aussi un tuk-tuk, comment est-ce qu'on dit, dans l'exposition?
Alors, il y a un danfo. Le danfo,
c'est pas un tuk-tuk, c'est un danfo. C'est quoi la différence?
Alors, le danfo, c'est ce bus populaire à Lagos, jaune. C'est le bus qui permet à Lagos, de traverser la ville pour quelques centimes. C'est vraiment le bus populaire pour les habitants qui peuvent pas se payer Uber ou qui peuvent pas avoir de voiture. Et c'est tout un rituel puisque le Danfo fait des trajectoires en ligne droite, donc il faut souvent changer si on veut se traverser réellement la ville. Et il y a tout un jeu entre le rabatteur, chauffeur et les gens qui doivent s'y entasser alors qu'il fait à peu près 50 degrés dedans. Et du coup, Emeka Ogbo, qui est un artiste qu'on a invité au Palais de Tokyo, qui est un des plus grands artistes de Lagos.
Un des très grands artistes du monde aujourd'hui, hein, certainement. C'est ça qui est bizarre d'ailleurs dans votre exposition, parce que il y a quand même des artistes, un vieux monsieur qui se met à peindre, qui a un petit succès dans les Artist Run Space dont vous parliez, et puis l'artiste qui vient de la Documenta, qui est Emeka Ogbo, mais qui travaille à Lagos et qui fait une œuvre extrêmement engagée politiquement, avec une qualité et une force fabuleuse, et donc tout ça se rejoint comme si c'était un seul langage. Pourtant, votre travail, c'est pas du tout un travail sociologique, c'est un travail sur l'excellence. C'est curieux, ces excellences, tellement dans un territoire tellement étiré, au fond, d'un point de vue plastique.
Oui, et tout est mis à égalité, donc effectivement, Emeka Ogbo est mis à égalité avec tous les autres artistes de l'exposition. Pourquoi on a voulu l'inviter? D'abord parce qu'il est au cœur de l'énergie de la ville de Lagos. Son travail s'intéresse aussi à l'énergie de la ville de Lagos. Et on s'est surtout rendu compte que, en faisant un tour de table au Palais de Tokyo, tous les curateurs du palais ne le connaissaient pas. Donc c'est qu'on voulait combler cette lacune. Et donc il a créé deux grandes œuvres au Palais de Tokyo.
Les curateurs du Palais de Tokyo n'ont pas de lacune. Je vous rappelle.
On les comble. Et du coup, une première œuvre sur le son du trafic de la ville, donc ce bus dans lequel le public sera amené à rentrer, s'asseoir pour écouter le bruit de la ville, le bruit du trafic, les discussions qu'on peut y trouver. Et une seconde œuvre qui sera une bière qu'on pourra boire. Puisque
comment elle s'appelle?
A Tale of Five. Donc c'est une bière qui va réunir les saveurs et les sensations des cinq villes de l'exposition et qui fait suite à une autre bière qui s'appelait Sufferhead, que l'artiste avait fait, qui était une bière noire et qui s'intéressait à la question du colonialisme entre l'Afrique et l'Allemagne.
Donc ça va dans tous les sens, c'est politique, esthétique, urbain, vous avez beau dire on ne parle pas des minorités, on ne parle pas des frontières, on ne parle pas des mégalopoles, c'est ce que lisait Hélène tout à l'heure et qui était extrait de votre catalogue, mais vous parlez quand même de tout ça. Pourquoi vous avez voulu dire non alors que c'est un grand oui en fait?
Parce que ce sont les artistes qui en parlent, et ça c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est être les passeurs. On n'a pas voulu théoriser, même a posteriori, nos découvertes et le parcours. Les œuvres parlent d'elles-mêmes, les artistes parlent mieux d'eux-mêmes et de leurs idées. Et notre rôle, c'était de les trouver, de les révéler, de les assembler, de leur donner plus de moyens pour créer. Mais tout est dit dans les œuvres, donc on n'avait pas besoin, nous, de prétendre parler des minorités, de prétendre parler du queer, de prétendre parler de la politique. C'est les artistes qui le font.
Mamali, qu'est-ce qu'elles vont devenir, les œuvres qui sont ici? Vous les ramenez à Téhéran? Qu'est-ce que vous en faites?
J'imagine, ouais.
À moins que quelqu'un s'y intéresse.
Voilà.
On ne sait jamais, ça peut arriver. Et votre père, il ne voudra peut-être pas laisser ses dessins. Comment on fait quand on est deux?
Lui, il s'en fout un peu parce que c'est... Je pense qu'en fait, l'autre jour, c'était drôle parce qu'il est arrivé au palais... Et quand il y avait tous les artistes de ma génération qui étaient un peu assez genoux en disant master, enfin grand-pain, et que lui il comprenait pas qu'est-ce qui se passait, et qu'il me disait moi j'ai commencé à faire de mes choses, mais c'est drôle, ça intéresse à tout le monde.
Et oui, ce que l'on fait nous transforme. Merci infiniment Mamali, merci Fabien, merci Hugo Vitrani, merci beaucoup pour la générosité de ce projet.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu Mamali Chafaï, Hugo Vitrani et Fabien Danesi, les deux commissaires de cette exposition étrange, Prince et Princesse des villes, qui vient de commencer au Palais de Tokyo et qui dure donc tout l'été. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Hélène Losseur. Merci beaucoup Hélène, c'était formidable. Une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son, Philippe Mercher. Réalisation, Thomas Jost. Et on retrouvera l'émission évidemment l'année prochaine. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture, bonnes vacances et à l'année prochaine.